Séance donc du mardi 19 décembre 2023. C'est notre quatrième séance consacrée à la lecture de Schopenhauer. Alors c'est encore une séance, si vous voulez, un peu générale. Nous allons nous acheminer bientôt vers la lecture des deux suppléments que je vous ai recommandés. Donc, vous savez, métaphysique de l'amour et puis métaphysique de la mort. Bon, on aura l'occasion de les lire, hein. Ne vous en faites pas. Bon, mais je pense que c'est bien d'avoir une vue générale de la philosophie de Schopenhauer et vous pourrez d'autant mieux apprécier après la lecture de ces deux textes. Alors, comme nous l'avons vu donc la dernière fois, Schopenhauer prétend percer le mystère de la chose en soi. C'est-à-dire de la réalité telle qu'elle est en elle-même. Alors, je rappelle ici la distinction établie par le philosophe Kant entre la chose en soi et le phénomène que Schopenhauer reprend à son compte. Alors, la chose en soi désigne les choses telles qu'elles sont, indépendamment de la manière dont elles nous apparaissent, et elles se distinguent du phénomène, c'est-à-dire ici des choses telles qu'elles nous apparaissent. Donc, j'ai été clair, hein ? La chose en soi, la chose telle qu'elle est indépendamment de la manière dont elle nous apparaît, le phénomène, c'est la chose telle qu'elle nous apparaît, telle qu'elle est pour nous, dans l'expérience que nous en avons. Alors évidemment, on avait déjà vu ça, et vous vous souvenez que je vous avais dit que pour le philosophe Kant, la chose en soi est inconnaissable. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle est en elle-même, car il est impossible de sortir de la représentation que nous en avons pour vérifier si cette représentation est conforme à ce qu'est la chose en dehors de notre représentation. Notre connaissance ne peut, par conséquent, appréhender que des phénomènes. Phénomène vient d'un mot grec qui veut dire manifestation, apparition. Et les sciences expliquent comment les phénomènes s'enchaînent selon des rapports de causalité, ce qu'on appelle des lois. Toutefois, comme on l'avait vu, elles supposent à la source des phénomènes, elle suppose des forces naturelles, comme la force d'attraction, mais évidemment, elle les suppose, elles sont incapables d'en pénétrer la nature. Or, précisément, Schopenhauer entend remonter des phénomènes à leur source. Il entend remonter des phénomènes à ce que Kant appelle la chose en soi. Il prétend révéler donc la nature de la chose en soi que Kant a pourtant déclarée inconnaissable. Mais alors, évidemment, la question qui se pose, c'est la suivante. Par quel miracle compte-t-il sortir de notre représentation pour accéder à la chose en soi, pour saisir l'essence intime du monde, la source première de tout ce qui apparaît? Comment compte-t-il accéder à la réalité intime du monde sans du même coup transformer cette réalité en une simple représentation subjective du monde? Donc comment compte-t-il accéder à la chose en soi? Alors avant de voir par quelle voie il compte y parvenir, il faut bien comprendre d'abord en quoi le monde est notre représentation, puisque c'est ainsi que commence le livre, « Le monde comme volonté et représentation ». Le monde, écrit Schopenhauer, le monde est ma représentation. C'est comme ça que le texte débute. Alors, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois, mais je vais reprendre les choses de manière plus systématique. Je vais reprendre la lecture du premier paragraphe. Le monde, alors vous avez le texte sous les yeux. Le premier. Le monde est ma représentation. Bon, alors qu'est-ce qui est affirmé de cette manière? C'est l'identité du monde, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est que le monde? L'ensemble des réalités observables. Donc c'est l'identité du monde avec la représentation, c'est-à-dire au fond l'apparition de ces réalités au regard de notre esprit, au regard du sujet qui les perçoit. Il n'y a donc de réalité, hein, il n'y a de réalité que dans la mesure où elle est susceptible d'être perçue. Alors évidemment, attention, ça ne signifie pas que la réalité est une pure construction imaginaire de notre esprit. Mais cela signifie que la réalité ne peut apparaître que par et pour un sujet qui la perçoit, et qui, comme sujet, ne se confond pas avec elle. Et vous voyez que le monde et ma représentation, c'est une affirmation qui s'oppose donc à la croyance naïve selon laquelle le monde se fait connaître à nous, sans dépendre en rien du sujet qui le perçoit. Sans dépendre en rien du sujet qui le perçoit, ni pour ce qui est de son existence, ni pour ce qui est de sa structure, de son organisation. Donc, vous voyez que dire que le monde est ma représentation, eh bien, c'est affirmer tout au contraire que celui-ci ne se découvre pas tel qu'il est en lui-même, à notre intellect, mais cela signifie que nous l'appréhendons nécessairement en fonction des structures de notre esprit. C'est-à-dire son apparition, donc l'apparition du monde, est inconcevable sans la présence active d'un sujet qui perçoit ce monde et qui le connaît. Donc vous voyez que cette affirmation est donc très importante. Et ici, énoncée de cette manière, d'ailleurs présentée de cette façon, elle a la valeur d'une évidence. D'une évidence qui doit être clairement reconnue si on veut pouvoir avancer, si on veut pouvoir aller plus loin. Et là, je cite le texte de la ligne 1 à la ligne 4. Je cite « Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. » Alors ici, je crois qu'il faut commenter ce petit passage qui a l'air anodin. Cette vérité, donc, le monde est ma représentation, cette vérité ne concerne pas seulement l'homme, mais tous les êtres vivants et pensants. De l'insecte le plus grossier jusqu'à l'homme le plus savant. Et tous ces êtres, sans exception, en font l'expérience. C'est-à-dire que tout animal, aussi rudimentaire soit-il, ressent en effet l'action de la réalité extérieure par l'intermédiaire de son corps, et il y réagit dans la mesure où il la perçoit. Tout être, donc, en conséquence, dès lors qu'il perçoit, hein, dès lors qu'il perçoit, tout être se rapporte au monde comme à sa représentation. Alors évidemment, ça ne suffit pas pour que tous les êtres se saisissent avec clarté comme des sujets distincts de ce qui les entoure. Parce que la plupart des êtres restent dans l'obscurité de leurs sentiments, de leurs sensations. Et ici, sans même parler des animaux, un nourrisson, un bébé humain, ne se saisit pas comme un sujet distinct du monde qui l'entoure. Il n'a pas encore un rapport à soi réfléchi, clair. Et concernant l'ensemble des êtres vivants et pensants, on peut envisager une très grande variété dans la constitution de ce rapport à soi. Le rapport à soi, ou le rapport au monde, hein, le rapport au monde qu'entretient par exemple un moustique n'est certainement pas le même que celui d'une chauve-souris, d'un chat, et encore moins, bien sûr, que celui d'un homme. Vous voyez, une variété. Mais, comme ici l'indique Schopenhauer, c'est chez l'homme seulement que se fait jour la conscience claire de sa singularité à l'égard de ce qu'il perçoit autour de lui. Et c'est chez l'homme seulement que se produit la réflexion qui va distinguer le sujet de l'objet. Réflexion par laquelle ce qui était d'abord une simple expérience intuitive assez confuse se transforme, comme dit Schopenhauer, se transforme en connaissance abstraite et réfléchie. Hein ? Je reprends ici la formule de Schopenhauer. Donc, si j'ai bien compris, seul l'homme peut énoncer l'affirmation « Le monde est ma représentation ». Seul l'homme, parce qu'il est capable de réflexion, peut dire « Le monde est ma représentation ». Et c'est de cette prise de conscience, hein, c'est-à-dire de la distinction que fait l'homme entre son être comme sujet et le monde comme l'objet de sa représentation, donc c'est de cette réflexion que naît l'esprit philosophique, puisque ici, Schopenhauer va parler de l'esprit philosophique. Je lis le texte à partir de la ligne 4. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. C'est-à-dire que pour que l'esprit philosophique puisse naître, il faut évidemment que l'homme soit capable de se distinguer en tant que sujet du monde qu'il perçoit comme objet, tout simplement. Donc c'est l'homme seul qui peut énoncer cette affirmation « Le monde est ma représentation » comme une vérité théorique. Quand bien même, cette affirmation vaut pour tout être percevant, le moustique y compris. Vous voyez, c'est une affirmation qui vaut pour tous les êtres. Mais le seul être qui soit capable, en fait, de la formuler, c'est l'homme, parce qu'il est capable de réflexion. Sitôt reconnue, cette vérité est riche de conséquences, puisque, lisez avec moi les lignes 6 à 11, il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil, ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait en un mot que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. Donc, ici, j'avais déjà commenté, mais je reprends. Hein. Chacun comprend en effet qu'il ne connaît le soleil qu'à partir de l'œil qui le voit. Chacun comprend qu'il ne connaît la terre qu'à partir de la main qui la touche. Pour le dire de manière plus générale, chacun comprend que la réalité qu'il perçoit n'existe comme telle pour lui qu'à partir de sa perception, comme un objet qui se présente à un sujet qui le perçoit. Et ici, je rappelle que l'étymologie du mot « objet », hein, ça vient d'un mot latin qui veut dire « ce qui est posé devant le regard ». L'objet, c'est ce qui est devant moi. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le monde est un pur produit de notre esprit, mais il s'agit de comprendre qu'il ne peut nous apparaître qu'à partir de la structure de notre esprit, nous qui le percevons. Et il s'agit ainsi de reconnaître que c'est à travers les structures du sujet connaissant, que sont, on va le dire, l'espace, le temps et la causalité. Donc c'est à partir des structures du sujet connaissant que les objets du monde sont perçus. Lisons les lignes 11 à 15. S'il est une vérité qu'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là, car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux même de temps, d'espace et de causalité qui l'impliquent. C'est-à-dire que toute expérience, quelle qu'elle soit, réelle, imaginaire, quelle qu'elle soit, toute expérience repose sur la distinction entre le sujet qui perçoit et l'objet qu'il perçoit, c'est-à-dire entre l'homme et le monde. C'est là une vérité générale qui s'impose à nous avant même que nous nous interrogions sur les structures du sujet percevant à travers lesquelles ce sujet perçoit le monde. Et alors ces structures, comme va le montrer après Schopenhauer, ces structures se ramènent à ce qu'il va appeler le principe de raison. Le principe de raison. Qu'est-ce que c'est que le principe de raison ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Il faut entendre par là le principe qui ordonne notre représentation, principe qui vient de nous, hein, qui vient du sujet, qui perçoit. Donc c'est le principe qui ordonne notre représentation et qui par conséquent rend possible l'expérience que nous avons du monde. Pour que nous ayons une expérience du monde, il faut en quelque sorte que le principe de raison structure justement cette perception. Vous voyez ? Et ce principe de raison s'exprime selon trois formes qui sont justement le temps, l'espace et la causalité. Alors, je le présenterai rapidement. L'espace, c'est une structure du sujet. C'est une structure du sujet percevant. Et à travers lui, les objets nous apparaissent situés les uns par rapport aux autres. Les sujets nous apparaissent localisés, extérieurs les uns aux autres. Ça, c'est l'espace. Et puis le temps. Le temps, c'est ce qui fait que les objets nous apparaissent selon une certaine durée et dans un ordre de succession, les uns par rapport aux autres. Vous voyez, le temps, c'est la succession. Et puis, la causalité, enfin, eh bien, c'est ce qui fait que les changements qui affectent les objets nous apparaissent comme les effets d'autres changements que nous appréhendons comme leur cause. Donc des relations de cause à effet. Ainsi, comme nous allons le voir, l'espace, le temps, la causalité dépendent du sujet qui perçoit le monde, dépendent de sa représentation, et ces structures expriment donc la manière dont le sujet perçoit le monde. Ce ne sont pas des structures du monde, ce ne sont pas des structures de la réalité, ce sont les structures à travers lesquelles la réalité nous apparaît. Vous voyez, attention. Ici, évidemment, par exemple, si je prends l'exemple du temps, le temps pour Kant, pour Schopenhauer, c'est la même chose. Pour Kant ou Schopenhauer, le temps, ce n'est pas une structure du monde, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la réalité en elle-même. Le temps, c'est une structure de l'esprit à partir de laquelle, à travers laquelle, les choses nous apparaissent, selon un ordre de succession. Donc, montrer que le monde est ma représentation, c'est donc mettre en évidence le rôle structurant du principe de raison pour cette représentation. C'est montrer que ce principe de raison conditionne notre perception et notre connaissance. Et en conséquence, ce principe de raison empêche la perception et la connaissance d'atteindre l'essence même des choses. Puisqu'en vertu du principe de raison, c'est-à-dire en vertu du temps, de l'espace et de la causalité, nous ne connaissons les choses que telles qu'elles nous apparaissent, et non pas telles qu'elles sont en elles-mêmes. Le principe de raison, c'est ce qui fait que nous connaissons les choses telles qu'elles nous apparaissent, mais nous ne pouvons pas les connaître telles qu'elles sont en elles-mêmes. Hein ? On retrouve toujours cette distinction entre le phénomène et la chose en soi. Alors, voyons d'abord le rôle structurant de l'espace et le rôle structurant du temps. On va commencer par le temps et l'espace. Alors, je le dis ici, Schopenhauer reprend les analyses du philosophe Kant dans la première partie de sa critique de la raison pure, un ouvrage très très célèbre, écrit en 1781. Et je vais être assez bref. Selon Kant, je vais expliquer la formule, l'espace et le temps sont, je cite, « des formes a priori de la sensibilité ». Formes a priori de la sensibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la sensibilité ? La sensibilité, je cite Kant, c'est la capacité que nous avons de recevoir des représentations grâce à la manière dont nous sommes affectés par les objets. Et au fond, la sensibilité, c'est une faculté de réception. Enfin, c'est ce qui fait que nous recevons des représentations qui nous viennent des objets extérieurs. On pourrait dire à la place de sensibilité, on pourrait dire réceptivité. Et cette réceptivité nous permet ainsi d'avoir ce que Kant appelle une intuition sensible des objets. Qu'est-ce que veut dire le mot intuition ? Intuition, ça veut dire appréhension immédiate. Une intuition, c'est une appréhension immédiate d'une chose. Qu'est-ce que c'est ici que l'intuition sensible d'un objet ? C'est tout simplement une sensation. C'est une sensation. L'intuition sensible d'un objet, c'est la sensation par laquelle nous sommes affectés par lui. Et c'est grâce à cette sensation que nous pouvons en avoir la représentation. Mais alors, ici, attention, suivez bien. Cette représentation, ce qu'on pourrait aussi dire la perception de l'objet, cette représentation ne se réduit pas à la sensation. La représentation d'un objet ne se réduit pas à la sensation par laquelle nous sommes, la sensation qui fait que nous sommes affectés par cet objet. La sensation, comme dit Kant, ne fournit à la représentation que sa matière. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand je suis affecté par un objet extérieur, j'éprouve des sensations de froid, de chaud, de lumière, ou des impressions auditives. Mais si nous n'avions que des sensations, si nous avions que les sensations d'un objet, nous ne pourrions pas nous le représenter. Ça ne suffit pas pour se le représenter. Les sensations ne sont que des données sensorielles, des données chaotiques. Elles ne sont qu'une poussière d'impression, si vous voulez. Mais si nous n'avions, encore une fois, que des sensations, nous ne pourrions pas nous représenter l'objet, ici, qui nous affecte. Pour qu'il y ait représentation de l'objet, pour qu'il y ait perception de l'objet, il faut qu'interviennent les formes de notre sensibilité, c'est-à-dire les structures, de la sensibilité qui vont coordonner les sensations, qui les organisent et qui permettent ainsi une représentation de l'objet. Vous voyez ? Et ici, le temps et l'espace sont des formes de la sensibilité qui ne viennent pas des sensations. Ce sont des formes de la sensibilité qui ne viennent pas des sensations. Ce sont des formes de la sensibilité qui se trouvent déjà là, dans notre esprit, elles sont inhérentes à l'esprit, et elles entrent en jeu dès que l'esprit est affecté par des sensations. Et dès qu'elles entrent en jeu, eh bien, elles mettent en forme ces sensations, elles les organisent, elles les structurent, et vous allez voir de quelle manière, hein. Vous allez ici pouvoir au moins comprendre une chose, c'est que si Kant dit que ce sont des formes a priori de la sensibilité, c'est dans la mesure où elles sont indépendantes de l'expérience, elles ne deviennent pas l'expérience, elles sont indépendantes de l'expérience, et elles conditionnent l'expérience, elles la rendent possible. A priori, c'est ce qui est avant. Hein, a priori, ça veut dire ce qui est avant toute expérience. Ça s'oppose à a posteriori, qui veut dire après. Expérience. Donc, quand Kant parle de forme a priori de la sensibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des structures du sujet qui sont déjà là, en quelque sorte, avant toute expérience, et qui vont justement la structurer, qui vont l'organiser. Et ici, sans ces formes a priori, l'expérience n'est pas possible. La perception n'est pas possible. Sans ces formes a priori de la sensibilité, le sujet ne peut pas se représenter des objets. Alors, ces formes sont au nombre de deux. L'espace, le temps. Alors, voyons l'espace. L'espace, nous le savons tous, hein, nous en faisons tous l'expérience, et il ne peut pas y avoir d'expérience d'un objet hors de l'espace. Y compris lorsque nous rêvons. Nous nous figurons toujours un objet dans l'espace. Vous ne pouvez pas imaginer un objet en dehors de tout espace. Je ne peux pas me représenter un objet sans étendue. Un objet, ça a toujours une étendue. Vous voyez ? Je ne peux pas me représenter un objet sans localisation. Il est toujours situé par rapport à d'autres objets. Et donc l'espace intervient en permanence. Et l'espace va structurer ici la perception que j'ai de l'objet. Alors qu'à l'inverse, rien ne m'empêche de me représenter un espace vide de tout objet. Vous voyez, l'espace n'est pas dépendant ici de la matière, hein, des sensations, puisque je peux me représenter un espace vide. Et qu'est-ce que fait le géomètre ? Il raisonne ici sur un espace vide. Bon. Donc, vous voyez que l'espace est une forme a priori de la sensibilité, donc c'est une structure du sujet percevant, qui conditionne spontanément la manière dont les choses nous apparaissent. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'intellectuel, hein. C'est de l'ordre de la sensibilité. Donc, vous voyez que nous sommes ainsi faits que dès que nous percevons le monde, ben, nous organisons finalement notre perception selon l'espace et le temps. Et comme l'espace, le temps ne résulte pas de l'expérience. Il ne vient pas des sensations. Il est au contraire ce qui, avant toute expérience, indépendamment de toute expérience, il est ce qui rend l'expérience possible en coordonnant nos sensations. Puisque nos sensations, finalement, elles se succèdent les unes aux autres. Hein ? Le temps, c'est ce qui fait qu'il y a une succession de sensations. Ainsi, en vertu de cette forme a priori de la sensibilité qu'est le temps, donc les objets nous apparaissent successivement les uns après les autres. Donc le temps, vous voyez, c'est encore une fois aussi une manière d'organiser l'expérience qui vient du sujet. Alors vous voyez que ici, alors évidemment ça se discute, ça, hein, c'est vrai que c'est une question qui mérite discussion, mais bon, ce ne sera pas le lieu ce soir de la faire, hein, là où nous sommes dans l'exposé finalement de la pensée de Schopenhauer. Mais c'est vrai que le temps et l'espace, pour Kant comme pour Schopenhauer, ce sont des propriétés du sujet. Ce sont des structures que nous trouvons dans notre esprit, avant même avant même l'expérience sensible, que nous avons des choses. Et sans ces structures, il n'y a pas de représentation des choses. Elles conditionnent la représentation que nous avons du monde. Ça, je crois que c'est clair, hein, maintenant. Alors, en toute rigueur, nous ne devrions pas dire que nous sommes dans l'espace et dans le temps, en toute rigueur. Hein ? Puisque c'est par nous que l'espace et le temps adviennent. En toute rigueur, on ne devrait pas dire « je suis dans le temps, je suis dans l'espace hein, », puisque c'est par nous qu'il y a du temps et qu'il y a de l'espace. C'est notre conscience qui impose au monde l'ordre successif et juxtaposé des objets qui y apparaissent. Alors, à ces deux formes que sont l'espace et le temps, Schopenhauer en ajoute une troisième. Il ajoute la causalité. Et vous allez voir que sur ce point, même si vous ne connaissez pas parfaitement bien ces deux auteurs, ce n'est pas très grave, sur ce point, nous allons voir que Schopenhauer s'éloigne de Kant. Alors, au premier abord, ces deux philosophes sont d'accord pour souligner le fait que les phénomènes, je rappelle ce que veut dire phénomène, les choses telles qu'elles nous apparaissent, donc ils sont d'accord pour souligner le fait que les phénomènes ne se succèdent pas dans le temps de manière anarchique, de manière désordonnée. Un certain nombre de phénomènes apparaissent nécessairement liés. Par exemple, l'augmentation de la chaleur précède la fonte de la glace, comme la cause qui engendre un effet. Vous voyez ? Cette succession nécessaire des phénomènes relève ainsi du principe de causalité. Principe de causalité en vertu duquel, je cite Schopenhauer, un changement ne peut se produire dans le monde matériel, qu'autant qu'il est immédiatement précédé par un autre. C'est-à-dire que, ici, la causalité, ici, ne relève pas de la sensibilité, c'est un acte de l'entendement. L'entendement, c'est, au fond, le mot, c'est un mot qui signifie l'intelligence. On peut dire à la place de l'entendement, on peut dire l'intelligence, l'intellect, si vous voulez. Et ici, il y a une activité de l'esprit, si vous voulez. C'est la relation de cause à effet, c'est une relation pensée. Vous voyez ? Donc, la causalité règle ainsi les changements qui se produisent dans le temps. Et encore une fois, là aussi, pas plus que l'espace et le temps, la causalité est dans les choses elles-mêmes. Elle structure, hein, la causalité structure la manière dont elles nous apparaissent. C'est l'esprit qui établit un lien nécessaire entre deux phénomènes. Vous voyez ? En vertu du principe de causalité. Donc, c'est notre esprit, notre entendement, qui impose à l'expérience de s'ordonner selon le principe de causalité. Alors, jusque-là, Schopenhauer et Kant sont tout à fait d'accord. Mais, voilà, une différence d'abord. Alors que Kant sépare d'un côté l'espace et le temps, et puis de l'autre la causalité, sépare la sensibilité, si vous voulez, de l'entendement, alors qu'il considère que la causalité est une catégorie de l'entendement, donc de l'intellect, si vous voulez, qui vient s'ajouter dans l'expérience aux deux formes de la sensibilité que sont l'espace et le temps, pour relier des phénomènes, eh bien, Schopenhauer, lui, ne les sépare pas. Schopenhauer ne sépare pas la causalité du temps et de l'espace. Il va montrer que l'entendement opère conjointement à la sensibilité. Il va montrer que le principe de causalité est inséparable de l'expérience que nous avons des objets dans l'espace et dans le temps. Pour l'instant, je ne vous ai fait qu'une annonce. Il faut que je vous explique. Ainsi, dès que nous percevons un objet, Dès que nous percevons un objet, le principe de causalité intervient. Qu'est-ce que veut dire percevoir, en effet ? Qu'est-ce que c'est que percevoir un objet ? C'est pas simplement éprouver une sensation, c'est pas simplement éprouver une impression visuelle, tactile, c'est attribuer spontanément à cette impression une cause hors de moi, localisée dans l'espace, que j'identifie comme la cause de mon impression. Et, vous voyez, j'attribue à cette impression que j'éprouve, donc, comme cause, cet objet qui est à l'extérieur de moi et que j'identifie, effectivement de cette manière-là. C'est-à-dire que, vous voyez, la relation de cause à effet ici s'effectue sans raisonnement, spontanément. Dès que je perçois, vous voyez, j'attribue l'impression, la sensation éprouvée à une cause hors de moi, dans l'espace, que j'identifie comme l'objet. Hein, et cette cause, eh bien, je l'appréhende comme ce qui a engendré, en quelque sorte, la sensation que j'éprouve. C'est-à-dire qu'à la fois, vous voyez, il y a à la fois l'espace et le temps, en quelque sorte, qui sont mobilisés en même temps que j'effectue cette relation de cause à effet entre la sensation que j'éprouve et puis la cause que je situe à l'extérieur de moi. Donc, qu'est-ce que veut dire percevoir ? Percevoir, c'est rapporter donc une impression, une sensation à une cause donc située en dehors de moi, et puis c'est interpréter ici cette impression comme l'effet de cette cause. Alors, vous avez un texte que je vais lire avec vous. En fait, je l'ai un petit peu découpé pour que ce ne soit pas trop compliqué. C'est le texte numéro 2, page 1. On va le lire depuis le départ. Connaître par les causes. Voilà, en effet. Vous avez trouvé ? Connaître par les causes. Voilà, en effet, son unique fonction. Son unique fonction et toute sa puissance. Alors, de quoi il parle ? Il parle de l'entendement, d'intelligence. Connaître par les causes, voilà en effet son unique fonction et toute sa puissance. Mais cette puissance est grande. Elle s'étend à un vaste domaine et comporte une merveilleuse diversité d'applications, reliées cependant par une unité évidente. Réciproquement, toute causalité et par suite toute matière, toute réalité n'existe que pour l'entendement, par l'entendement. La première manifestation de l'entendement, celle qui s'exerce toujours, c'est l'intuition du monde réel. Or, cet acte de la pensée consiste uniquement à connaître l'effet par la cause. Ainsi, toute intuition est-elle intellectuelle. Alors, je ne dis pas que c'est simple à comprendre, parce qu'effectivement, il faudrait expliquer tous les termes. Mais je vais essayer de simplifier les choses. Ce qui est remarquable ici, dans ce que dit Schopenhauer, c'est l'idée que l'entendement, l'intelligence, intuitionne. Il faut relever ce verbe. L'entendement intuitionne, ça veut dire qu'il appréhende immédiatement, au fond, le monde réel. Il le saisit. C'est-à-dire, comment intuitionne-t-il le monde réel ? En saisissant spontanément que l'objet qui est hors de moi est la cause de l'impression par laquelle je suis affecté. L'objet qui est hors de moi est la cause de la sensation que j'éprouve en moi, visuelle ou tactile. Donc, l'entendement, vous voyez, appréhende spontanément que cet objet agit sur moi par sa matière, sur mon organisme. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'entendement saisit le réel comme quelque chose qui agit sur moi en m'affectant par des impressions, par des sensations. Et d'ailleurs, le verbe allemand, je crois, utilisé par Schopenhauer, c'est... je crois que c'est... Oh, je sais plus, Wirklichkeit en allemand, c'est la réalité, eh bien, l'idée d'une action du réel, donc une matière qui agit sur la sensation, sur mon organisme, c'est wirkt. Hein, l'idée, c'est ça, c'est un verbe comme ça. Donc, ainsi, c'est l'entendement qui révèle l'action de la matière, des objets du monde, sur mes sens, sur ma sensibilité. Et Schopenhauer a ici donc cette formule remarquable que jamais Kant ne prononcerait, toute intuition est intellectuelle, ce qui ne veut pas dire que l'entendement peut connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Ça, c'est comme ça que Kant l'interpréterait. Évidemment, pour lui, ce serait impossible. Il n'y a pas d'intuition intellectuelle au sens où, pour Kant, nous ne pouvons pas, par l'esprit, connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. C'est comme ça qu'il interprète l'expression intuition intellectuelle, Kant. Mais là, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Schopenhauer emploie l'expression. Quand il parle d'intuition intellectuelle, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que l'entendement est capable d'identifier justement l'objet qui est la cause de mon impression dans l'espace et le temps. Et sans l'activité de l'entendement, qui opère justement par le principe de causalité, eh bien, nous n'aurions que des impressions sensorielles, nous n'aurions que des sensations dont nous ne pourrions pas identifier la cause. Vous voyez ? Nous serions incapables d'identifier les objets de notre perception. Et d'ailleurs, on va suivre encore une fois à nouveau le texte pour expliquer, vous voyez, le rôle de l'entendement dans la constitution de notre représentation, dans la constitution de notre perception. Et vous allez voir que Schopenhauer le compare au soleil. Une analogie. Il compare l'entendement au soleil dont la lumière permet de rendre les choses visibles. Vous voyez, le soleil, c'est ce qui permet d'éclairer les choses, c'est ce qui permet de les rendre visibles. Eh bien, l'entendement, c'est un peu pareil. L'entendement, c'est ce qui fait apparaître, au fond, la réalité à l'esprit qui l'aperçoit. Eh bien, lisons le texte, si vous voulez. Ligne 30. Mais, de même que l'apparition du soleil découvre le monde visible, ainsi l'entendement, par son action soudaine et unique, transforme en intuition, comprenez perception, ce qui n'était que sensation vague et confuse. Cette intuition, donc cette perception, n'est nullement constituée par les impressions qu'éprouvent l'œil, l'oreille, la main. Ce sont là de simples données. J'arrête là la lecture. C'est-à-dire que, encore une fois, ne confondez pas les données sensorielles, les impressions que nous éprouvons. Et si nous n'avions qu'elles, nous ne pourrions pas identifier les choses. Nous ne pourrions rien percevoir. Ne confondez pas ces données sensorielles avec la perception objective du monde qui exige l'intervention de l'entendement, qui exige l'intervention du principe de causalité. Vous voyez ? Donc, vous voyez, en montrant que... Vous voyez, je reprends l'image du soleil. L'entendement, c'est notre soleil, quoi. C'est notre lumière intérieure. C'est ce qui fait que les choses vont devenir visibles pour nous, qu'elles vont pouvoir être identifiées, qu'elles vont pouvoir être perçues. Hein, vous voyez, comment il faut comprendre ici cette analogie. Donc, en montrant donc que la perception implique conjointement la causalité et puis l'espace et le temps, eh bien, Schopenhauer, je l'ai dit, marque un premier écart avec Kant. Mais il va encore plus loin. Il va encore plus loin, et là, ce sera plus facile à comprendre. Alors que Kant s'interroge seulement sur les conditions qui, dans le sujet, rendent possible sa représentation du monde. Vous voyez, Kant, il fait une analyse, au fond, du sujet. Il analyse ce qui, dans le sujet, conditionne sa représentation du monde, ce qui rend possible sa représentation du monde. Voilà ce que fait Kant. Schopenhauer le suit en large partie, si vous voulez. Mais Kant se contente de ça. Enfin, disons que Kant ne va pas plus loin. Schopenhauer, lui, va plus loin. Il va s'interroger sur l'origine de cette représentation. Je veux dire par là qu'il va s'interroger sur les conditions biologiques qui permettent de faire émerger chez l'homme les structures de sa représentation du monde. Il ne va pas simplement s'en tenir à une analyse subjective des conditions de la perception, il va montrer sur le plan, sur le terrain de la physiologie, sur le terrain de la biologie, que l'homme, que cet être particulier, cet organisme particulier, cet organisme vivant particulier qu'est l'homme, eh bien, il est amené à percevoir le monde en raison d'un certain nombre de nécessités biologiques. C'est-à-dire que la question, si vous voulez, que se pose Kant, c'est que se pose Schopenhauer, c'est la suivante. Pourquoi le monde surgit-il comme représentation pour l'homme? Pourquoi cet animal qu'est l'homme en vient-il à percevoir le monde, à se représenter le monde? Pourquoi un corps comme le corps humain est-il amené à se représenter le monde selon les catégories de l'espace, du temps et de la causalité? Voilà la question que va se poser ici Schopenhauer. Et ce n'est pas pour rien qu'il a fait des études de médecine, des études de physiologie. Vous voyez, vous allez comprendre que ça va intervenir ici, dans son périple intellectuel. Une analyse purement subjective des conditions de la représentation du monde, comme celle de Kant, lui paraît insuffisante. Et en s'appuyant sur les acquis de la physiologie, de l'anatomie, de la zoologie, de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du vivant, si vous voulez, eh bien, on peut éclairer l'origine et la fonction de l'intellect, de l'entendement, dans un organisme comme celui de l'homme. Et l'année dernière, nous avons lu ensemble l'évolution créatrice, pour ceux qui étaient là, eh bien, d'une certaine façon, Bergson reprendra le même type de démarche dans l'évolution créatrice, en un sens, si vous vous souvenez. Alors, donc, l'intellect, l'entendement, a besoin d'un substrat matériel. Et ce substrat matériel, c'est le cerveau. Et Schopenhauer vous parle du cerveau. Hein ? Il a besoin, donc, d'un substrat matériel en bon état de marche. Oui. Pour s'exercer. Parce qu'une paralysie du cerveau vous rend incapable d'identifier des objets dans la perception. Elle vous rend incapable de faire correspondre aux impressions sensorielles que vous éprouvez des objets hors de vous que vous identifiez comme la cause de vos impressions. Hein ? Pour qu'il puisse y avoir perception, rappelez-vous, il faut que soit mise en jeu la relation de cause à effet, le principe de causalité, il faut une activité de l'entendement. Bah, si votre cerveau n'est pas en très bon état, bah, vous allez éprouver des sensations, mais sans pouvoir les rapporter à un objet. Donc vous ne pourrez pas percevoir. En outre, une réflexion sur le vivant permet de comprendre que l'intellect et le cerveau qui en est le substrat matériel, eh bien l'intellect et le cerveau n'apparaissent qu'au moment où ils sont indispensables pour la conservation d'une certaine forme complexe de vie. Je veux dire par là qu'un organisme simple, comme une plante, n'a pas besoin d'intellect, car la satisfaction de ses besoins ne nécessite aucunement la représentation d'un monde extérieur. La plante n'a pas besoin de se représenter le monde pour se conserver, pour vivre. Hein, vous voyez, la représentation n'est pas nécessaire. Oui, vous comprenez, ce qui est très intéressant chez Schopenhauer, c'est qu'il part au fond d'une théorie de la vie pour expliquer la formation de l'intellect. Vous voyez ? C'est avec l'animal en général, et l'homme en particulier, que les besoins connaissent une certaine complexification qui va rendre problématique leur satisfaction. Hein, plus les besoins se multiplient, plus ils se complexifient, et plus la satisfaction de ces besoins devient problématique. Et justement, à partir du moment où il y a une certaine complexification des besoins, eh bien, apparaît nécessaire l'émergence d'un nouvel organe, comme le cerveau. Vous voyez, le cerveau va émerger à partir d'un certain degré de complexification de l'organisme vivant. Et à ce niveau d'organisation de la vie, eh bien, la conservation nécessite que l'animal se représente le monde, qu'il étende son existence au-delà des limites de son corps. Vous voyez ? Vous voyez qu'au fond, se représenter le monde extérieur, c'est aller au-delà des limites de son propre corps. Vous voyez ? C'est se projeter dans l'espace, c'est dans le temps. Eh bien, la plante n'a pas besoin de ça. Hein ? L'animal, lui, a besoin de ça. Et l'homme étant un animal. Alors, vous avez... Alors, je n'ai pas photocopié ce texte-ci, mais je vous le trouverai, page 991-992, au chapitre 22 des suppléments. Je vous lis un petit passage. En effet, plus l'organisation de l'animal devenait complexe, par suite d'un développement plus élevé, plus varié aussi et plus spécialement déterminé devenaient ses besoins, plus difficile en conséquence, et dans une dépendance plus étroite des circonstances, se présentait la manière de se procurer de quoi satisfaire ses besoins. Il fallut dès lors un horizon plus large, une apperception plus juste, une distinction plus précise des objets extérieurs dans leurs conditions et leurs rapports. Vous voyez ? Donc l'intelligence, là, a besoin, enfin le cerveau va se développer et entraîne l'intelligence. Alors cette réflexion sur la différence de complexité des êtres vivants conduit Schopenhauer à distinguer plusieurs formes particulières du principe de causalité. Le principe de causalité s'exprime selon plusieurs formes particulières, selon l'objet auquel elle s'applique. Et vous allez voir que Schopenhauer va distinguer trois types de causalité. La cause, au sens strict, l'excitation et le motif. C'est facile à comprendre. Donc la cause au sens strict, l'excitation et le motif. Alors la cause au sens strict détermine les mouvements des êtres inertes, des êtres inanimés. Elle se reconnaît à deux caractères essentiels. D'une part, en tant qu'elle précède dans le temps l'effet qu'elle produit, elle est elle-même l'effet d'une cause antérieure. Et le changement qu'elle subit est égal à celui qu'elle produit. Il y a égalité entre la cause et l'effet. Vous voyez ? Tout simplement. Et d'autre part, le degré d'intensité de l'effet est exactement proportionné au degré d'intensité de la cause. Ainsi, aussitôt que vous connaissez la cause, vous pouvez déduire l'effet. Alors, je prends un exemple. Plus est violent un coup de hache dans une bûche, et plus cette hache pénètre dans le bois de la bûche. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la cause au sens strict. Et là, c'est égalité, proportionnalité. Deuxième forme de causalité, l'excitation. L'excitation intervient dans le monde végétal. dans le monde organique. Donc cette deuxième forme de causalité se distingue de la simple cause en ce qu'il n'y a pas ici de proportionnalité entre l'action et la réaction. Exemple. C'est sous l'excitation de la lumière, par exemple, que la plante peut croître dans une direction déterminée. Il faut de la lumière pour qu'il y ait croissance de la plante. Seulement, attention, l'excitation donc, permet d'expliquer les mouvements du règne végétal, la croissance, le déplacement et aussi le déclin. Mais, comment dire, l'effet n'est pas le plus souvent proportionné à la cause, puisque, par exemple, une élévation de la température ou une trop forte lumière peut avoir pour effet non pas de faire croître une plante, mais au contraire, de la faire périr. Voyez, là, vous avez des variations. Hein, il n'y a pas une proportionnalité rigoureuse, constante entre la cause et l'effet. Il y a trop de chaleur, tue la plante. Aucune chaleur, tue la plante. Il faut, vous voyez, un certain degré. Troisième forme de causalité, qui s'applique cette fois-ci à l'animal, le motif. Alors, le comportement d'animal, en général, est déterminé par des motifs. Dans le cas de la bête, le motif est toujours une chose présente qui suscite un mouvement en provoquant dans cette bête une inclination ou une aversion. Par exemple, quel est le motif du déplacement du chien ? Hein ? La pâtée que son maître vient de déposer devant sa niche. C'est vrai aussi de vous de temps en temps. Bon. Dans le cas de l'homme, en revanche, le motif n'est pas nécessairement un objet présent. Ce peut être la représentation d'une chose qui n'est pas présente. Et même l'homme est capable d'agir pour des motifs abstraits. Par exemple, l'homme peut résister à la tentation de manger certains aliments, certaines sucreries, pour obtenir une meilleure santé. Une certaine idée. C'est pas vrai de tout le monde. Il y en a qui ne sont pas à ce stade-là. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc il s'agit là d'un motif abstrait. Qui contrecarre donc le motif présent, donc les sucreries. On ne peut pas résister aux sucreries parfois. Alors vous voyez que contrairement à la bête, l'homme peut se déterminer à l'action à partir de représentations abstraites indépendamment des circonstances présentes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de commune mesure ici entre le motif et puis l'effet qui l'entraîne. Alors vous voyez qu'en raison du degré de complexité de son intellect, c'est la pensée elle-même, chez l'homme, qui devient motif. Et vous voyez, pour Schopenhauer, il n'y a pas de distinction de nature entre l'animal et l'homme, hein, une distinction de degré, plus grande complexité. Mais l'homme est un animal, un peu plus élaboré, sans plus. Et la causalité intervient aussi chez l'animal. L'animal a aussi un entendement, il identifie aussi les choses, vous voyez. Donc, il ne faut pas ici considérer que l'entendement ne concerne que l'homme. Alors, vous voyez, jusqu'ici, nous avons envisagé le monde sous un seul point de vue, celui de la représentation. Ça occupe toute la première partie du monde comme volonté, comme représentation. Il y a quatre parties, il y a quatre livres. Ben c'est le premier livre. Donc, le monde comme représentation, selon d'abord la distinction fondamentale du sujet et de l'objet, et puis en vertu du principe de raison qui ordonne cette représentation. Et si le monde nous apparaît, s'il est notre représentation, c'est bien qu'il y a nécessairement à la source de son apparition un monde d'objets réels à un monde de choses en soi, si vous voulez. Ce que nous voulons donc maintenant, hein, dans notre nouvelle partie, bah, c'est connaître ce monde d'objets réels. C'est ce que nous voulons maintenant, c'est savoir, c'est saisir l'essence intime du monde au-delà de la représentation que nous en avons. Hein. C'est ça que nous essayons de faire depuis le départ. Hein. Nous essayons d'aller au-delà de la représentation pour saisir le monde tel qu'il est en lui-même, pour saisir la nature intime de la réalité. Et ce n'est pas grâce à la représentation, ce n'est pas du dehors, dans la perception des phénomènes qui nous entourent, mais au contraire du dedans, selon un chemin radicalement différent, que nous allons pouvoir appréhender l'essence intime du monde. Et là, je vous invite à lire page 3, du texte numéro 10. Texte numéro 10, lignes 14 à 19. Lignes 14 à 19, donc c'est le texte, c'est en bas, à gauche. Alors, j'aurai l'occasion d'en lire deux extraits, mais commençons à la ligne 14. On l'avait déjà lu, mais je le reprends, ce texte. Donc, page 3, texte numéro 10, en bas, à gauche. Ligne 14. Ce sera en quelque sorte une voie souterraine, une communication secrète qui, par une espèce de trahison, nous introduira tout d'un coup dans la forteresse contre laquelle étaient venues échouer toutes les attaques dirigées du dehors. C'est-à-dire que la forteresse, c'est la chose en soi que nous essayons d'atteindre. Mais si vous essayez d'y atteindre, si vous essayez de l'atteindre de l'extérieur, vous n'y arriverez pas. Il faut trouver une autre voie. Ce n'est pas, pour le dire d'une autre façon, ce n'est pas en cherchant à connaître la chose en soi à la manière dont vous connaissez les phénomènes que vous allez l'atteindre. Il faut aller au-delà de la représentation. Alors, toute la question est de savoir comment. Quelle est cette voie souterraine ? Et, c'est intéressant. Alors, cette voie souterraine, il n'est pas nécessaire de la chercher bien loin. Cette voie souterraine, vous allez la trouver en vous. En vous. Elle se trouve au-dedans de vous. Et plus haut dans le même texte, regardez bien, ligne 8 à 14, regardez bien, nous ne sommes pas seulement le sujet qui connaît, mais nous appartenons nous-mêmes à la catégorie des choses à connaître. Nous sommes nous-mêmes la chose en soi. Vous êtes des choses en soi. Vous êtes donc nous sommes nous-mêmes la chose en soi. Et en conséquence, si nous ne pouvons pas pénétrer du dehors jusqu'à l'être propre et intime des choses, une route partant du dedans nous reste ouverte. Alors, cette route, ce chemin, cette voie souterraine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce n'est pas autre chose que la perception intime que nous avons de notre propre corps. C'est ça que nous allons maintenant comprendre. La voie souterraine qui va permettre d'accéder à la chose en soi, je reprends, c'est la perception intime que nous avons de notre propre corps. Et c'est précisément parce que nous avons un corps, que nous sommes un corps, que nous pouvons accéder donc à la source non visible des phénomènes. À la source non visible des phénomènes, c'est-à-dire à la source métaphysique des phénomènes. Rappelez-vous l'étymologie du mot métaphysique, ce qui est au-delà de la physique, au-delà de ce qui est observable. Au fond, la chose en soi, c'est ce qui est au-delà de ce qui est observable, c'est cette source des phénomènes qui est cachée. Eh bien, cette source des phénomènes qui est cachée, elle est en moi, dans l'expérience, dans la perception intime que j'ai de mon corps. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, et c'est en percevant que nos comportements procèdent d'une force active en nous qui s'exprime à travers eux, qui s'appelle la volonté, eh bien que nous allons ainsi accéder à la chose en soi. Vous voyez, au fond, quand je perçois intimement mon corps, eh bien, je perçois en moi une force active, hein, qui s'exprime à travers les comportements qui sont les miens. Et cette force, c'est ce que Schopenhauer appelle donc la volonté. Et si le philosophe n'était qu'un pur esprit, si le philosophe n'était qu'un pur sujet connaissant, il ne pourrait rien comprendre au comportement humain, car il serait incapable de percevoir en lui, en son propre corps, la source d'où ses comportements jaillissent. Et ici, je vais citer un texte qui mérite tout de même d'être lu avec beaucoup d'attention. C'est le texte numéro 3. Alors, page 1, vous retournez à la page 1. En haut, ligne 1 à 13, c'est en haut à droite. Et vous allez voir. Je lis. En réalité, il serait impossible de trouver la signification cherchée de ce monde qui m'apparaît uniquement comme ma représentation. Je laisse un peu la phrase là et je vais plus loin. Si, ligne 5, si le philosophe lui-même n'était rien de plus que le pur sujet connaissant, une tête d'ange ailée, sans corps. Mais en fait, il a sa racine dans le monde, en tant qu'individu. Il en fait partie. Sa connaissance seule rend possible la représentation du monde entier. Mais cette connaissance même a pour condition nécessaire l'existence d'un corps, dont les modifications sont, nous l'avons vu, le point de départ de l'entendement pour l'intuition de ce monde. Vous allez voir ici que le corps devient l'objet privilégié de l'enquête métaphysique. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Le corps, alors là encore, c'est le problème, on est un peu tributaire des traductions, c'est qu'en allemand, il y a deux mots. Et là, le traducteur, bon, j'ai pris la traduction classique parce qu'elle est plus facile à situer. Je sais qu'en allemand, il y a deux mots, il y a Körper et il y a Leib. Leib, c'est le corps vivant, le corps vécu, le corps de l'intérieur, justement. Et puis Körper, c'est le mot, c'est le corps objectif, tel qu'il apparaît, tel qu'on le voit. Eh bien, c'est vrai que le traducteur, bon, il n'a pas fait la différence. C'est le même mot qui est utilisé. Alors, je sais qu'il y a une traduction, alors je n'ai pas été regardé. En collection Folio, je pense qu'il y a une traduction meilleure, plus moderne, si vous voulez. Bon. Mais, donc, le corps en tant que corps vécu, en tant que corps propre, hein, on dit le corps propre pour dire le corps vécu. Le corps en tant que corps propre, et non pas le corps observé de l'extérieur, c'est-à-dire comme phénomène, eh bien, c'est lui, c'est ce corps vécu qui va servir de fil directeur, en quelque sorte. C'est lui qui va nous permettre de mener l'enquête métaphysique. Et par là, Schopenhauer est en rupture avec la tradition philosophique, qui exigeait au contraire que le philosophe se détache de son corps, de son expérience sensible, pour accéder à la véritable connaissance des choses. Et là, j'ai deux références célèbres. Vous avez la fameuse allégorie de la caverne de Platon, hein, qui montre la démarche qui doit être celle, finalement, de la connaissance philosophique. Il faut sortir de la caverne, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'expérience sensible, celle du corps, pour accéder à l'au-delà de la caverne, qu'est-ce que c'est que l'au-delà de la caverne? Ben, c'est la connaissance intellectuelle, la pure connaissance intellectuelle des choses. Vous voyez? C'est la vraie connaissance. Et donc il faut s'arracher au corps, en quelque sorte, pour connaître. Il faut mourir au corps pour connaître. Descartes, dans ses méditations métaphysiques, reprend d'une autre manière la même idée, quand il montre que pour connaître, il faut s'abstraire des sens. Il faut s'arracher à ses sens. Voyez, parce que la seule connaissance qui soit claire et distincte, c'est celle de l'esprit, du pur entendement. Donc vous avez toute cette tradition philosophique. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Schopenhauer? Il prend exactement le contre-pied de cette tradition. Il va montrer que ce que nous considérions comme ce qu'il y a de plus obscur, eh bien évidemment, et au contraire, ce qui va nous donner la clarté. Hein. Donc, c'est effectivement en nous fiant à notre perception intime du corps que nous allons pouvoir accéder à la chose en soi. Et en tant qu'être corporel, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes à la fois les deux. Nous sommes à la fois, en tant que corps, nous sommes chose en soi, si vous voulez, et nous sommes phénomène. On peut avoir ce double point de vue sur le corps. Hein, puisque d'une part, en effet, notre corps nous apparaît de l'extérieur à travers une série de phénomènes sensibles, c'est-à-dire à travers des expressions, à travers des gestes, à travers des postures, à travers des actions qui sont visibles. Hein. Donc on peut adopter sur le corps, vous voyez, le point de vue de la représentation. Bon, à ce titre, le corps est un objet, et comme tout objet, il est soumis au principe de raison, et par là, il est un phénomène, une représentation de notre perception. Bon, ça c'est, vous voyez, le point de vue extérieur. Mais d'autre part, le corps, il est ce que nous percevons de l'intérieur. Et nous l'éprouvons ici comme la force qui impulse nos actions. La force qui est à la source de tous les comportements qui sont les miens. La force qui s'exprime dans tous ces comportements. Vous voyez, ligne, regardez, prenez page 1, le texte, toujours le même texte, mais ligne 35 à 40. Toujours le même texte. Hein. Dès lors, ce corps lui est donné deux façons, toutes différentes. D'une part, comme représentation dans la connaissance phénoménale, vous comprenez l'expression maintenant, hein, comme objet parmi d'autres objets, et comme soumis à leurs lois. C'est le corps tel que peut l'étudier le physicien, si vous voulez. Et d'autre part, en même temps, comme ce principe immédiatement connu de chacun, que désigne le mot « volonté ». Et ici, il faut bien comprendre les choses, hein, c'est que tout acte volontaire, comme le remarque Schopenhauer, est toujours et immédiatement une action du corps. Le fait que nous voulions, que nous désirions quelque chose, s'exprime immédiatement en un mouvement corporel. C'est-à-dire qu'ici, attention, il faut se débarrasser d'une conception que nous avons spontanément. Nous représentons les rapports entre la volonté et le corps de manière distincte. C'est-à-dire que pensons que nous commençons par vouloir. Nous pensons que nous commençons par vouloir. Puis ensuite, quand nous avons pris une décision, eh bien, vient l'action du corps comme l'effet de cette décision. Vous voyez, nous représentons deux événements, l'acte de la volonté, premier temps, puis ensuite le mouvement du corps qui apparaît comme l'effet de la décision que nous avons prise en tant que volonté. Eh bien, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas comme ça du tout qu'il faut se représenter le rapport entre la volonté et le corps. Et comme dit Schopenhauer, l'action du corps et celle de la volonté sont un seul et même fait. On va comprendre en lisant le texte. Un seul et même fait. Lisez avec moi des lignes 44 à 51. L'acte volontaire et l'action du corps ne sont pas deux phénomènes objectifs différents, reliés par la causalité. Ils ne sont pas entre eux dans le rapport de la cause à l'effet. Ils ne sont qu'un seul et même fait. Seulement ce fait nous est donné de deux façons différentes. D'un côté, immédiatement, en tant que j'éprouve la volonté, et puis de l'autre, comme représentation sensible, en tant que je vois mon corps se mouvoir. L'action du corps n'est que l'acte de la volonté objective, c'est-à-dire vue dans la représentation. C'est-à-dire ici, je vais vraiment insister sur ce point, que ce soit clair. Schopenhauer, donc, je répète, rompt avec la conception dualiste que nous avons tous spontanément, selon laquelle nous concevons donc le rapport du corps à la volonté. Par exemple, pour un exemple, lorsque je lève la main, lorsque je me mets en marche, je considère que je l'ai préalablement voulu. C'est comme ça que je me représente ici ce que je fais. Et cette conception dualiste que nous avons spontanément, elle est exprimée en toute rigueur par le philosophe Descartes, pour lequel le mouvement volontaire est l'effet d'une décision de l'âme sur le corps. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a en nous, en fait, deux réalités distinctes, une réalité immatérielle qu'on appelle l'âme, et puis une réalité matérielle qu'est le corps. Et au fond, quand je lève le bras, parce que j'ai pris la décision de lever, c'est-à-dire que l'âme, ici, commande le corps. Hein? Voilà comment on se représente ici l'action. Eh bien, cette conception présuppose qu'il y ait deux réalités distinctes qui sont l'âme et qui sont le corps. Et dès que vous vous représentez les choses de cette façon, vous entrez dans un problème insoluble. Comment une réalité qui est par nature immatérielle, l'âme, peut-elle agir sur quelque chose de matériel, le corps? Et réciproquement. Vous êtes dans un problème absolument insoluble. Et tous les philosophes qui sont dualistes sont exposés à ce problème qu'ils ne peuvent pas résoudre. Or, ce problème n'est un problème que parce que vous distinguez l'âme du corps. Or, il n'y a pas lieu de les distinguer. Il n'y a pas lieu de les distinguer. Et pour Schopenhauer, il y a au contraire identité entre la volonté et le corps. Ma volonté et mon corps ne font qu'un. Le corps n'est en lui-même que ma volonté devenue visible. Le corps n'est, au fond, que ma volonté en tant qu'elle s'objective, si vous voulez. En tant qu'elle devient visible, vous voyez ? En tant qu'elle s'objective dans un comportement. Mais il n'y a pas à distinguer la volonté et le corps. Le corps, c'est la volonté qui se manifeste. C'est tout. Il n'y a rien, le corps n'est rien de différent. Donc, on est d'accord là-dessus. Bon, mais cette volonté que, en deçà de la représentation, je perçois sous forme de tendance, sous forme de passion, de décision. Comment peut-on s'en saisir, comme le dit Schopenhauer, c'est la question que nous allons maintenant aborder. Vous prenez le texte, page 2, je vais reprendre ça. Donc je reprends ma question et vous allez lire le texte qui va se trouver, texte numéro 5, lignes 5 à 8. Lignes 5 à 8. Donc, je reprends ma question d'abord. Hein. Cette volonté hein, que je perçois de manière intime, sous forme de force, une tendance. Hein, bon. Et comment peut-elle nous servir, comme dit Schopenhauer, ligne 4, comment nous allons nous en servir comme une clé pour pénétrer jusqu'à l'essence de tous les phénomènes et de tous les objets de la nature qui ne nous sont pas donnés dans la conscience comme étant notre propre corps et que par conséquent nous ne connaissons pas de deux façons mais qui ne sont que nos représentations. Prenez le temps de relire ça. Comment, je reprends ma question, comment ce corps que j'éprouve en moi-même et que je peux voir de l'extérieur, parce que j'ai un double rapport au corps, comment ce corps, comment cette expérience intime du corps va-t-elle pouvoir servir de clé pour comprendre l'essence de tous les autres phénomènes ? Comment, parce que c'est ce que va faire Schopenhauer, comment la perception intime du corps va-t-elle pouvoir nous éclairer sur la nature intime du réel, dans sa totalité ? Comment ? De quelle manière ? Parce que bon, je comprends très bien ce que dit Schopenhauer, que j'ai une expérience intime du corps qui va au-delà de la représentation, ça d'accord. Mais comment ? Puisque c'est ce que prétend faire Schopenhauer, comment cette expérience intime, comment cette perception intime va-t-elle permettre d'accéder à la connaissance de la réalité intime du monde en sa totalité, puisque c'est ce qu'il prétend faire. Ça paraît insensé. Alors, c'est ça la question que nous allons nous poser. Comment peut-on affirmer, comme Schopenhauer, que l'essence intime de toute chose, l'essence intime de toute réalité s'éclaire à la lumière de notre perception intime de la volonté. Vous voyez ? Comment ? Alors, avant d'aborder vraiment la difficulté, je veux tout de même éviter un contresens. Il faut éviter d'un contresens. Il faut éviter de mécomprendre Schopenhauer. Et Schopenhauer ne veut pas dire ici que le monde est ma volonté. Il ne va pas dire que le monde est ma volonté, comme on pouvait dire que le monde est ma représentation. Il ne dira pas ça. Mais il s'agira plutôt de dire que ma volonté individuelle, que j'éprouve en moi, à l'intérieur de moi, eh bien, ma volonté et le monde. C'est ça qui est étrange. Ma volonté et le monde. Non pas que le monde se réduise à ma volonté, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais ma volonté et le monde, au sens où, en tant qu'elle est ma volonté, elle est une expression particulière d'un principe beaucoup plus vaste. D'un principe beaucoup plus vaste, d'une volonté universelle, d'une volonté unique, qui est présente en toute chose, qui est présente dans l'univers entier. Vous voyez en quel sens il dit ici que ma volonté est le monde. Ma volonté est le monde, c'est-à-dire que en percevant intimement ma volonté, je vais pouvoir comprendre que la volonté est un principe universel, qui est en toute chose. Puisque ma volonté, ce que j'appelle ma volonté, n'est jamais qu'une expression particulière de ce principe universel qui est en toute chose. Alors, et comme l'affirme d'ailleurs Schopenhauer, et ça va paraître effectivement un peu étrange, mais expliquons, page 2, vous êtes page 2 toujours, dans le texte numéro 6, il va montrer que la volonté, avec un grand V si vous voulez, la volonté c'est la source métaphysique des mouvements et des comportements de tous les êtres du monde. De tous les êtres du monde. Oui, de tous les êtres, de toutes les réalités du monde. Toutes les réalités du monde. Des choses, oui, tout. Et vous allez voir, on lit le texte, regardez bien. Le texte numéro 6, donc c'est en bas, de la ligne 1 à la ligne 11. Ce n'est pas seulement dans les phénomènes tout semblables aux siens propres, chez les hommes et les animaux, qu'il retrouvera comme essence intime cette même volonté. Bon, s'il ne s'agissait que des animaux, oui, je projette, enfin, je peux très bien concevoir qu'ils sont comme moi animés d'une volonté, étant entendu que la volonté, c'est cette espèce de force qui anime chaque animal. Ça, c'est pas difficile, mais vous allez voir, ça va beaucoup plus loin. Donc, ce n'est pas seulement dans les phénomènes plus semblables aux siens propres, chez les hommes et les animaux, qu'il retrouvera comme essence intime cette même volonté. Mais un peu plus de réflexion l'amènera à reconnaître que l'universalité des phénomènes, si divers pour la représentation, a une seule et même essence, la même qui lui est intimement, immédiatement, et mieux que tout autre connue, celle-là enfin qui, dans sa manifestation la plus apparente, porte le nom de volonté. Il la verra dans la force qui fait croître et végéter la plante et cristalliser le minéral. Il la verra aussi dans la force qui dirige l'aiguille aimantée vers le nord, etc. etc. Je pourrais multiplier les exemples, tous les phénomènes, finalement, expriment, d'une manière ou d'une autre, cette volonté universelle. Alors, effectivement, ce genre d'affirmation a de quoi nous rendre perplexes. Ça a de quoi nous rendre perplexes. De quel droit, c'est la question qu'on va se poser, forcément, mais il faut y aller comme ça. De quel droit, Schopenhauer étend-il cette force qu'il nomme la volonté, dont la présence est éprouvée seulement par nous, à l'ensemble des êtres qui sont hors de nous? De quel droit? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de saut métaphysique illégitime qu'est-ce qu'il autorise à dire ça? Un lecteur doit se poser cette question. Alors, avant de répondre à cette question, et pour tout, justement pour mieux pouvoir y répondre, ne faisons pas dire à Schopenhauer que ce qu'il appelle la volonté comme principe universel se manifeste identiquement en tous les êtres. La volonté comme principe universel ne se manifeste pas de la même manière en tous les êtres. C'est ce qu'il va expliquer. En nous, mais en nous seulement, la volonté se donne comme une volonté éclairée par la réflexion. En nous. Mais il serait absurde de prêter à l'animal une volonté consciente identique à la nôtre. Et il sera encore plus absurde de prêter à la plante ou aux corps inertes une volonté identique à la nôtre. C'est absurde. C'est pas comme ça, évidemment, que Schopenhauer va parler de la volonté qui est présente chez les plantes, ou même dans les corps inertes. Donc, la volonté comme principe universel, comme substance qui constitue tout être, eh bien, se manifeste de manière différente selon les êtres. Et là, je vous invite à lire la ligne 24 à 29 du texte numéro 6, en bas à gauche, page 2. Je crois que ça, c'est un texte très important. La volonté est la substance intime, le noyau de toute chose particulière, comme de l'ensemble. C'est elle qui se manifeste dans la force naturelle aveugle, la force d'attraction, par exemple. Oui. C'est elle qui se manifeste dans la force naturelle aveugle. Elle se retrouve dans la conduite raisonnée de l'homme. Si toutes deux diffèrent si profondément, c'est en degré et non en essence. crois que ce texte est important, il faut bien comprendre. Nous, nous serions tentés spontanément de dire que entre la chose inerte et puis l'homme, une différence de nature radicale. Il y a un être dépourvu de volonté, l'être inanimé, la chose, et puis il y a un être doté d'une volonté, l'homme. Voilà, c'est ce que nous disons. Pour Schopenhauer, non. La volonté est présente en chaque être. Simplement, il y a des différences de degré. Entre l'être inerte et l'homme le plus capable de réfléchir, il y a la même volonté, mais qui s'exprime de manière différente. Une différence de degré entre les deux. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les êtres, donc, quels qu'ils soient, sont donc constitués par une seule et même force, donc la volonté, même si celle-ci s'exprime diversement selon les uns ou les autres. Mais alors, je reprends ma question. Comment Schopenhauer peut-il prétendre affirmer ainsi une volonté universelle présente en chaque être? Eh bien, vous allez voir que toute sa démarche repose sur un raisonnement par analogie, comme il s'en explique dans le texte numéro 5, en haut à gauche, de la ligne 10 à 14. Et ça pose problème. Ligne 10 à 14. Donc, nous les jugeons, alors c'est les objets de la nature, nous les jugeons par analogie avec notre corps, et nous supposerons que si d'une part ils sont semblables à lui, en tant que représentation, et d'autre part si on leur ajoute l'existence en tant que représentation du sujet, le reste, par son essence, doit être le même que ce que nous appelons en nous volonté. Bon, de le dire d'autre façon, si vous voulez, voilà comment fonctionne l'analogie. Si notre corps est semblable aux objets du monde du point de vue de la représentation, tout ce que nous avons vu dans la première partie. Donc si notre corps est semblable aux objets, donc du point de vue de la représentation, eh bien, les objets du monde doivent pareillement être semblables à notre corps du point de vue de la volonté qui constitue son essence. C'est-à-dire, s'ils sont semblables extérieurement, ils le sont intérieurement, si vous voulez. C'est-à-dire que l'identité extérieure, phénoménale de mon corps avec les autres objets, nous autorise à postuler une identité plus profonde, une identité d'essence entre tous les corps qui sont dans le monde. Voilà comment procède ici Schopenhauer, par un raisonnement, par analogie. De même que nous qui avons un corps que l'on peut effectivement connaître en fonction des lois de la représentation, nous qui avons un corps et qui en même temps avons cette force interne qui se manifeste à travers ce corps, eh bien, nous pouvons supposer que les autres êtres qui sont comme nous, qui ont un corps, eh bien, possèdent en eux-mêmes, intérieurement, une force analogue. Vous voyez, c'est comme ça que procède ici Schopenhauer. Mais il faut bien reconnaître qu'il accomplit ici une sorte de saut métaphysique qui peut paraître tout à fait illégitime. Parce que c'est la critique que va lui adresser personne. Dans la pensée et le mouvement. Et je vous donnerai le texte, si vous voulez, pas ce soir comme ça, mais peut-être vous écrirez un petit extrait de ce texte. Et pourquoi c'est illégitime? Parce que, d'abord, souvenez-vous que Schopenhauer prétend fonder sa métaphysique sur l'expérience. Ce qu'il prétend faire, loin de toute spéculation, c'est ce qu'il prétend faire. Or, ici, le saut accompli par lui nous fait sortir de l'expérience. Alors, pour que ce soit plus clair, je reprends les étapes du raisonnement. Oui, Alors. Alors, oui, sauf que là, c'est pas sur le plan du raisonnement.
Non.
C'est pas sur le plan du raisonnement. C'est-à-dire que. Il sort de l'expérience. Là, nous avons, première chose, nous avons bien l'expérience d'une force en nous qui nous pousse à vivre, à désirer, force que Schopenhauer appelle la volonté. Bon, ça, ok. Hein. Nous avons bien une perception intime de la volonté en tant qu'elle est cette force qui se manifeste dans nos actions, dans nos comportements. Mais nous n'avons pas, en revanche, d'expérience des forces qui sont censées mouvoir les autres corps. Je ne fais que le supposer. C'est une pure hypothèse, absolument. Et parler d'une volonté universelle, c'est accomplir un saut qui nous fait sortir de l'expérience. Et Schopenhauer ne respecte pas l'expérience qu'il revendique pourtant, lui-même, comme la condition de validité de sa métaphysique. Et c'est le reproche que lui adresse, justement, donc, le philosophe Bergson, qui est un lecteur attentif de Schopenhauer, qui par bien des aspects reprend son argumentation, dans un article qui se trouve dans La pensée et le mouvement. C'est un des derniers textes qu'il a écrit, un des derniers textes publiés en 1938, et il reproche, au fond, à Schopenhauer de ne pas se tenir, justement, à une expérience, à une intuition réelle. Hein. Et donc, il prétend découvrir, Schopenhauer, il prétend découvrir le principe d'une volonté universelle s'exprimant dans tous les êtres de l'univers. Or, il n'y a là, de sa part, qu'une prétention illégitime consistant à étendre à l'univers donc la perception intime que nous avons de notre propre corps, et aucune expérience, en vérité, ne permet d'attester la réalité d'une volonté universelle. Alors, est-ce que je dois en conclure que il fallait pas lire Schopenhauer, il faut laisser ça tourner. Non, justement, c'est pas la conclusion que j'en tirerais, parce que je pense que sa métaphysique est très féconde. Elle permet, elle stimule une sorte de recherche, si vous voulez. Elle a un grand intérêt par les conséquences qu'elle va pouvoir développer. Je vais m'expliquer, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée d'une volonté universelle comme force aveugle qui constitue tous les êtres, ça permet à Schopenhauer de renouveler radicalement le regard que l'on porte notamment sur l'être humain. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Une fois qu'on a admis, si vous voulez, cette volonté universelle, on ne peut plus définir l'homme comme un être essentiellement conscient et intelligent. On rompt avec, justement, la conception classique, traditionnelle, que les philosophes avaient jusqu'alors de l'homme. Et c'est pour ça que je vous ai d'ailleurs photocopié sur le plan un texte, et c'est sur ce texte que je vais terminer. Et vous allez voir qu'à partir de là, vous ne serez pas étonné que ce soit à Schopenhauer qu'on doit finalement la découverte de l'inconscient. Vous voyez, parce qu'il va considérer au fond que l'intelligence en l'homme, l'intellect, l'entendement, finalement, il est toujours soumis à la volonté. La volonté, n'entendez pas la volonté au sens d'une volonté consciente, réfléchie, au sens d'un libre arbitre, c'est pas du tout comme ça, bien sûr, qu'il faut l'entendre. La volonté, au fond, c'est l'affectivité. C'est cette force affective qui mue tous les êtres, qui est de l'ordre d'une tendance, qui est en partie réfléchie, mais pas toujours. C'est ça qu'il faut entendre par la volonté, cette espèce de force qui nous meut et qui nous fait désirer. C'est cette volonté qui nous tenaille au sens où elle ne cesse de nous faire désirer en permanence. Elle nous tient, quoi, en quelque sorte, cette volonté. Eh bien, regardez bien la dernière phrase que je vous ai citée dans le plan. Et c'est tiré d'un des suppléments, chapitre 18 des suppléments, qui a pour titre, ou chapitre 19 plutôt, des suppléments, qui a pour titre « Du primat de la volonté dans la conscience de nous-mêmes ». Primat de la volonté sur l'intellect. Vous voyez ? Primat de la volonté sur l'intelligence. C'est-à-dire que quand nous raisonnons, c'est sous la pression de la volonté. Il n'y a pas de réflexion purement intellectuelle, si vous voulez, qui soit au-dessus, en quelque sorte, des affects. Non, ça n'existe pas, ça, pour Schopenhauer. Alors, je lis. Dans notre propre conscience, la volonté se présente toujours comme l'élément primaire et fondamental. Sa prédominance sur l'intellect est incontestable. Celui-ci est absolument secondaire, subordonné, conditionné. Cette démonstration est d'autant plus nécessaire que tous les philosophes antérieurs à moi, du premier jusqu'au dernier, parce que moi je suis génial, Schopenhauer, place l'être véritable de l'homme dans la connaissance consciente. Et c'est pas faux, c'est vrai qu'il inaugure. C'est lui qui rend possible Nietzsche, Freud, des autres. Hein. Il marque une rupture. Hein, c'est indéniable. Donc vous voyez, le mot volonté, en fait, certains traducteurs évitent d'utiliser ce terme pour éviter tout équivoque. Ils préfèrent le terme de vouloir. C'est peut-être mieux comme ça. Der Wille en allemand. Hein. Donc, le vouloir. Ça évite l'équivoque. Hein. Mais comprenez que cette force qu'est le vouloir, c'est au fond une force affective. Hein. Voilà. Et cette force, elle fait de nous des marionnettes, en quelque sorte. Hein. Parce que quand nous raisonnons, quand nous pensons, c'est toujours sous la pression, en quelque sorte, de nos affects. C'est ça que va montrer Schopenhauer. Donc, vous voyez, il fallait tout de même présenter tout ça pour commencer à pouvoir lire, effectivement, les grands textes sur l'amour, sur le désir, etc. Ça, c'est important. Voilà, j'en ai fini. Et je suis à vos interrogations, questions. Oui. Ah, vous l'avez, vous.
Donc, c'est vrai qu'elle est plus fluide, elle est plus simple.
Et certainement plus exacte.
C'est plus agréable à lire, mais c'est aussi complexe.
Ah non, c'est sûr. Mais par contre, vous voyez, par exemple, on est d'accord, mais...
Par exemple, il emploie le mot corps, exactement...
Ah oui, il n'y a pas de différenciation. Enfin, c'est pas facile de traduire en français... Cette distinction.
Et la deuxième remarque, vous répondez à un peu. Elle peut comprendre ce qu'il dit par expérience, en sens qu'il se situe comme un être dans l'univers, comme tous les autres êtres dans l'univers. Donc, son expérience à lui,
oui.
Il la prend comme l'expérience
de tous les êtres.
De toutes choses de l'univers.
Tout à fait.
C'est un principe d'identité de l'univers.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez une formule que j'avais lue tout à l'heure, mais qui maintenant peut être reprise et qui s'éclaire mieux à la lumière de ce qu'on a dit à la fin. Quand il dit, page 1, le texte est en haut à droite, là. Et j'ai souligné le passage. Mais en fait, il a... sa racine dans le monde. Il a sa racine dans le monde en tant qu'individu. Vous voyez, c'est-à-dire, le monde est notre demeure. Hein? Puisque, au fond, cette force qui est la nôtre, elle s'enracine dans quelque chose qui est commun à tous les êtres. Alors, non, oui et non, parce que non, je sais bien que... Il y avait une question qu'une personne, elle n'est pas là aujourd'hui, il m'avait posé, mais est-ce que la volonté, c'est au fond comme un dieu? Non, parce que c'est une force aveugle. Hein,
oui, non, mais c'est... sens presque mystique.
Le brahmisme est horizontal. C'est un peu ça, le brahmisme, le sambus, le brahman, le brahma et tout.
Oui, alors, du côté des religions orientales, il faudrait peut-être voir plus de ce côté-là pour comprendre ce que dit Schopenhauer, absolument. Mais en tout cas, c'est pas si volonté il y a, c'est une force obscure, c'est aveugle, c'est pas une personne, il n'y a pas de Dieu personne, hein. Ça c'est clair. Hein.
Parce que personne a évolué justement
oui.
Pour donner un sens en fait.
Oui, dans son dernier livre, ouais. Mais pas dans l'évolution créatrice.
Non, mais
ouais. Mais c'est vrai que là, c'est ça, les deux sources, la morale et la religion, absolument. Mais comment dans le texte de chez Schopenhauer, parce que il est absolument athée.
Il y a.
Alors, oui, ça c'est ce qu'il va nous falloir expliquer après, parce que là pour l'instant, oui, effectivement, on va revenir sur cette question du mal. Qu'est-ce qui fait que nous souffrons? Qu'est-ce qui fait que nous sommes. Enfin, parce que cette volonté, en fait, qui nous pousse, cette dynamique vitale, hein, qui nous tenaille, elle est souffrance en son essence, essentiellement. Alors, attendez, il y a plusieurs. Oui.
Ce n'est pas plus simplement la vie, la force qui.
C'est un courant vital. Mais qui fait que nous ne nous satisfaisons jamais de rien. Chez Schopenhauer, c'est pas quelque chose qui nous permet de nous accomplir. Non. Évidemment, ça c'est. Oui. La représentation. Alors.
Donc là, c'est important parce que finalement, ouais. Je trouve que ça correspond à une intuition très intéressante et même assez moderne. Par exemple, la douleur elle-même, on peut pas simplement l'expliquer. Et c'est vrai que au niveau de la science, quand on demande quel est le degré de douleur, on ne peut que demander au malade, effectivement, casser votre douleur si tu es sur une échelle. Et en fait, il n'y a pas le système de causalité, de cause à effet, n'explique pas ça. C'est une résultante de l'action qui serait contre notre volonté.
Il faut trouver le passage, effectivement.
Alors, je pense que c'est fondamental parce que ça va plus permettre de développer ça, notamment sa morale.
Alors, je suis tout à fait d'accord et même je pense que nous avons tous intérêt à repérer ce passage. C'est quel texte? Page 1, page 2, page 3? Page 1. C'est ça, c'est le texte en bas à droite. Et effectivement. Bon, on va prendre le texte. Les décisions de la volonté qui concernent l'avenir ne sont que des prévisions de la raison. Sur ce que l'on voudra, à un moment donné, ce ne sont pas réellement des actes de volonté. C'est seulement l'exécution qui prouve la décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la décision et puis l'exécution après. L'exécution manifeste la décision. Bon, ça, c'est clair. Ça, il n'y a rien de nouveau. Jusque-là, elle n'est qu'un projet qui peut changer. Elle n'existe que dans l'entendement in abstracto. C'est pour la réflexion seule qu'il y a une différence entre vouloir et faire. En fait, c'est la même chose. Bon, tout acte réel, effectif de la volonté est sur le champ et immédiatement un acte phénoménal du corps, c'est ce qu'on a dit, et par contre, toute action exercée sur le corps et par le fait est immédiatement... Et toute action exercée sur le corps est par le fait et immédiatement une action exercée sur la volonté. Comme telle, elle se nomme douleur, lorsqu'elle va à l'encontre de la volonté, et lorsqu'elle lui est conforme, au contraire, on l'appelle bien-être ou plaisir. Leurs gradations sont différentes, et on a tout à fait tort de donner au plaisir et à la douleur le nom de représentation. Hein, ce ne sont que des affections immédiates du vouloir.
Et ça, c'est intéressant.
Ça, c'est important.
La science, aujourd'hui, on n'arrive pas à bien distinguer ces notions.
Tout à fait. Hein,
c'est très moderne.
Oui.
En même temps, ça va lui permettre de repartir sur la notion de big line.
Alors.
Voilà, ça va être certainement le point de départ de...
Ce que nous allons comprendre, c'est que ce vouloir universel, il s'exprime de manière individuelle. Et c'est l'individualisation qui implique la souffrance, qui nous expose finalement à la contrariété, qui va nous opposer à d'autres volontés, etc. C'est ça. C'est pour ça.
Et là, on ne part pas sur l'analyse, enfin, la conscience elle-même,
mais non.
On part sur la volonté. En fait.
C'est la force, une force qui rencontre un obstacle, qui au contraire va trouver un moyen de s'épanouir. Mais la force, ce qui est à l'origine du mal, c'est l'individualisation. C'est l'individuation. Pour ça, effectivement, une certaine manière de se délivrer, pas de se délivrer du mal, parce qu'il est constamment là, mais d'y échapper, de nous en consoler, c'est justement d'échapper à notre individu. C'est plutôt dans des expériences de ce type-là qu'il va envisager effectivement un soulagement à la misère. Mais on n'en sort pas. Pour lui, effectivement, la volonté, elle est éprouvée comme quelque chose qui est constamment en proie à un manque, à une souffrance.
Et c'est par l'action, en fait, qu'on va y réussir, mais pas par la compréhension, c'est l'action qui va nous amener.
Alors, c'est-à-dire que... Là, il faudra. Pour lui, il y a l'art.
Oui, c'est ça.
L'art qui va être un moyen d'échapper, mais momentanément, effectivement. La compassion.
C'est très comme l'art, la compassion et la contemplation.
Et la contemplation, effectivement. Mais et donc là, effectivement, mais en tout cas, notre condition est souffrante. Notre condition est souffrante. Et il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire, hein, c'est clair.
Il n'y a pas la réflexion.
La réflexion, elle risque au contraire de nous accabler.
Elle risque de nous accabler.
De renforcer.
Oui.
Hein, la lucidité, loin de nous guérir, c'est pas Spinoza. Hein. Elle nous enfonce. Alors que les animaux sont plus heureux. Oui.
Je voudrais dire que c'est illégitime la démonstration.
Attendez, s'il vous plaît.
La démonstration par analogie, c'est pas du tout illégitime. C'est très utilisé par les scientifiques. Je suis ingénieur moi-même et je peux vous certifier que bien des pièces sur les avions sont certifiées par analogie.
Ah, mais je suis d'accord.
Donc, il faut être très prudent là-dessus.
Oui.
Ce qui compte, c'est la façon dont on utilise cette méthode et ce que l'on veut démontrer. C'est ça qui est très important. Mais c'est pas du tout une démonstration de voyous.
Non.
Je voulais dire ça. On a l'impression qu'il utilise quelque chose d'illégitime. Pas du tout.
Non.
La démonstration par analogie, c'est pas plus voyou que la démonstration empirique.
Il faut rapporter, il faut rappeler.
C'est quand on veut éviter une expérience,
oui.
On fait une démonstration par analogie. Et c'est ce qu'il veut faire, parce qu'il ne sait pas faire l'expérience.
Oui, mais...
On verra comment il l'utilise.
Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas, par analogie, aboutir à une expérience qu'on n'éprouve pas. C'est-à-dire que l'expérience...
Justement, c'est ça qu'il veut essayer.
Oui, mais là, c'est pas possible. Il y a pas... L'analogie nous permet de concevoir, effectivement, que d'autres êtres sont animés comme nous d'une force interne, comme la volonté, mais nous ne pouvons pas en avoir l'expérience, par définition.
Si vous n'en avez pas la contre-expérience, c'est une démonstration.
Je peux pas.
La théorie existe tant qu'il n'y a pas de contre-expérience. On est bien d'accord.
Oui, mais là.
Ah ben oui, mais
difficile.
Il tente quelque chose.
Oui.
Il fait une théorie. Tant que vous n'avez pas la contre-expérience, vous ne pouvez pas dire que la théorie est mauvaise.
Il n'est pas dans le domaine de la science.
Il cherche à progresser.
Oui, en plus, ce n'est pas la science, effectivement. C'est une expérience métaphysique.
Oui, non, mais il cherche à progresser.
Oui.
On a l'esprit cartésien, mais lui, il l'a moins.
Oui, mais comment dire je n'ai aucun mépris à l'égard du raisonnement par analogie, sauf que là, en l'occurrence, il ne nous permet pas vraiment de confirmer l'affirmation d'un principe universel de volonté, ne permet pas de confirmer par une expérience. Je ne peux pas...
Vous ne pouvez pas le contredire.
Ah non, ça c'est sûr.
D'accord.
C'est sûr. Sauf que là où il se contredit, c'est qu'il prétend fonder sa métaphysique exclusivement sur l'expérience.
Ah oui, donc il utilise maintenant l'analogie.
Voilà, c'est là qu'il il fait un usage illégitime de l'analogie.
Ah.
Je m'en suis tiré, c'est bon. Bon, donc voilà, si vous voulez. Alors, donc, vous voyez, on a pris le temps, mais maintenant, ça va pouvoir, vous voyez, on va pouvoir entrer dans les considérations psychologiques. Voilà. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes. N'abusez pas. Faites pas comme monsieur.